Je dois aller juste. Ça fait plaisir de. Ça nous fait plaisir d'être ici ce matin. Ça fait déjà un petit bout qu'on on peut venir vous visiter. Je suis content de voir Denis aussi, puis Annie. Quand Denis était un peu plus jeune, et moi aussi. Denis venait à la jeunesse chez nous. Je sais pas s'il s'en rappelle. Puis on demeurait à Polyvalente, à côté de Polyvalente. Puis des fois, il venait dîner avec sa soeur chez nous. Je pense qu'une des. Dans les premières prédications que j'ai faites, c'était à la jeunesse de Gatineau. Je sais pas si Annie s'en rappelle. J'avais été un soir. Mais c'est ça. Je suis content de vous voir. Comme vous avez vu dans le texte ce matin, j'aimerais qu'on continue la série qu'on a commencée il y a quand même plusieurs mois, parce que je ne viens pas souvent, mais en tout cas, on est content d'être là. Le premier message qu'on a vu ensemble, je ne sais pas si vous en rappelez, on avait vu le miracle du lépreux, où Jésus les guérit un lépreux. On avait vu que, dans le fond, le lépreux, c'est l'image de nous en tant que pécheurs. Hein, on est souillés par le péché, et Christ vient nous laver de nos péchés. Ensuite, on avait vu les amis du paralytique hein, qui ont démanché le toit pour emmener leurs amis devant Jésus, pour que Jésus puisse faire quelque chose pour nous. Et on avait vu que, dans le fond, ça, c'est l'image de notre propre état. On n'est pas capable d'aller vers Dieu par nous-mêmes. Et Dieu, dans sa grâce, a envoyé des porteurs de la bonne nouvelle pour nous emmener à Jésus. Ensuite, quand notre frère Denis était à l'hôpital, on a vu ensemble le miracle de la tempête. Et on en a des tempêtes dans nos vies. Et dans l'Église. Mais Jésus est maître de la tempête. Et la dernière fois que j'étais ici, on a vu la guérison du démoniaque. Hein? Légion, 6000 contre 1. Jésus seul devant à peu près 6000 démons. Et Jésus, par une parole, libère le démoniaque. Comme nous, on était esclaves du mauvais maître, Christ nous a libérés de la même chose. Et ce matin, par le texte qu'on a vu, la veuve de Nain, qu'est-ce que Jésus va faire pour cette veuve? On va commencer au verset 11, qui nous dit, « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. » Ses disciples et une grande ville faisaient route avec lui. Le jour suivant à quoi? Le jour suivant, le miracle qu'on n'a pas vu, où Jésus va guérir le serviteur d'un soldat romain. Donc, le jour après cette guérison miraculeuse-là, Jésus part de la ville de Capernaüm. Il va marcher jusqu'à la ville de Nain, 40 kilomètres. 40 kilomètres. Donc, Jésus part de Capernaüm, va au sud-ouest, et il marche pendant 40 kilomètres pour aller marcher vers cette dame-là. Et on calcule que normalement, les gens marchent à peu près 3 à 4 kilomètres à l'heure. Ça a pris 12 heures au Seigneur Jésus pour partir de Capernaüm et se rendre à une ville de Nain. Et la ville de Nain, dans la Bible, c'est la seule fois que cette ville-là est mentionnée, une fois seulement. C'est le Timbuktu du monde, une ville que personne ne connaît. Et Jésus se lève et il marche 40 kilomètres. Imaginez. Et j'aimerais, on va voir qu'il y a plusieurs contrastes avec certains des autres miracles avant que Jésus ait fait. La première chose, c'est que dans le miracle avant sur le centurion romain, le centurion avait envoyé des gens pour dire à Jésus, « Viens guérir mon serviteur. » Mais dans ce miracle-là, la veuve, elle n'a pas appelé Jésus. Jésus de lui-même décide de se rendre dans la ville de Nain. Pourquoi aller aussi loin, dans une ville que personne ne connaît, sans être appelé? Mais Jésus a un rendez-vous important. Jésus ne s'est pas rendu dans la ville de Nain, par hasard. Et je vous dirais ce matin, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, ce n'est pas par hasard que tu es ici. Tu as peut-être un rendez-vous avec le Seigneur Jésus, puis tu ne le savais pas. Jésus a marché 40 km pour aller réconforter, redonner l'espoir, mais surtout redonner la vie. Et si tu ne connais pas le Seigneur Jésus ce matin, Christ peut te donner la vie. Et quand je pensais, je lisais le texte, je me disais, Jésus a marché 40 km. C'est la distance de Hawkesbury à Alexandria, à peu près, à pied. Imaginez. Et je me suis dit, jusqu'où Jésus est allé pour me rencontrer? Jésus, il a marché 40 km pour aller rencontrer cette veuve. Éphésiens 1 nous dit ceci. Nous étions tous éloignés de Dieu à cause de nos péchés. Oui, éloignés, mais pas trop loin pour que Jésus vienne nous rencontrer. Spécial, hein? Et Philippiens 2, 6 et 7 nous dit ceci. Jusqu'où Christ est allé par amour pour ses brebis? Lui qui était de condition divine, il n'a pas épargné son égalité avec Dieu comme étant comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous, Christ est allé bien plus loin que de Capernaum à Nain pour moi. Christ a enlevé son manteau de roi, descendu sur la terre, pris la forme d'un homme, a marché une vie parfaite et est venu mourir sur une croix. Il y avait un nom d'écrit dessus. Daniel Grenier, grand pêcheur. Christ a été bien plus loin que de Capernaum à Nain pour moi. Imaginez. Et tantôt, on va chanter un beau chant. Ça m'a fait penser à ce chant-là, qui nous dit ceci. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Imaginez Dieu quitter le ciel pour nous. Et là, le verset 12, on rencontre un cas désespéré. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens dans la ville. Donc, d'un côté, vous avez un cortège avec la mort, en grande victorieuse, qui sort de la ville. Et de l'autre côté, vous avez Jésus qui arrive avec une foule, le prince de la vie. Il va y avoir un combat qui va se passer. Qui va gagner? La mort en victorieuse ou le prince de la vie? On va voir qui va gagner. Et juste pour vous mettre dans le contexte, pourquoi les gens sortaient de la ville avec la mort? Bien, il faut comprendre que dans ce temps-là, les seules personnes qui étaient enterrées dans la ville, c'était les riches, les rois. Les gens du peuple comme nous, il n'y avait pas de place dans la ville. On les enterrait à l'extérieur de la ville. Et c'est pour ça que la foule sort de la ville. Et Jésus lui rentre. Et il y a un autre contraste. Dans le miracle avant, Jésus a guéri des lépreux, des paralytiques, des sourds, des muets, des aveugles, des possédés. Dans un sens, on pourrait dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, vous d'accord? Mais là, Jésus rencontre un mort. Il n'est pas juste possédé, là. Il est mort. Il est fret. C'est vrai. Un cas désespéré. On ne parle plus de guérison, ça. On parle de résurrection. Et dans le ministère de Jésus, dans Luc, Jésus n'a jamais ressuscité personne encore. Donc, Jésus rencontre un mort. Et un commentaire a fait remarquer ceci qui est intéressant. Dans le temps, normalement, quand quelqu'un mourait, on l'enterrait le même jour. Jésus est mort sur la croix, on l'enterrait quand? On l'a mis dans le tombeau le même jour. C'était la coutume. Pensez-y. Jésus est parti le matin tôt. Il y avait 12 heures de marche. C'est possible que quand Jésus est parti de la ville de Capernaum, le petit gars n'est même pas mort encore. Parce qu'il est mort dans cette journée-là, parce qu'on l'enterrait le soir. Donc, en théorie, peut-être que Jésus s'est mis à marcher vers la ville de Nain, puis le petit gars n'est même pas mort. Le petit gars avait un rendez-vous avec Jésus, puis il ne savait pas. Mais Christ le savait. Donc, Christ se met en marche, marche pendant 12 heures de temps. Et il rencontre un mort. C'est cruel, la mort, êtes-vous d'accord? Pourquoi? Ça détruit nos relations les plus chères. Des fois, on voit des gens qui sont malades. Et dans un sens, c'est presque une bénédiction qu'ils partent. Pourquoi on pleure? Pourquoi on pleure si, dans le fond, ils vont être libérés? C'est parce que la relation qu'on a avec eux va être coupée pour toujours. C'est pour ça qu'on pleure. Mon épouse, quand son père est parti, à l'âge de 11 ans, parti travailler, jamais revenu. Il a donné un bec le matin, fait une crise de cœur, il est parti. 46 ans plus tard, mon épouse n'a jamais revu son père. C'est ce que la mort fait. Mais vous savez, il y a une mort qui est bien pire que ça. C'est la mort spirituelle. Il fait exactement la même chose. Sauf que là, la coupure, c'est entre nous et Dieu. Et ce matin, si tu n'es pas en Christ, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, tu es mort. Tu es mort spirituellement parce que tu n'as pas de relation avec Dieu. Exactement comme mon épouse avec son père. Et je peux vous dire une chose. La mort spirituelle est bien plus dangereuse que la mort naturelle. Bien plus dangereuse. Romains 3, 23 nous dit ceci. 6, 23, excusez. Le salaire du péché, c'est la mort. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur. Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous étiez morts, séparés de Dieu. Mais il y a de l'espoir. C'est ce qu'on va voir ce matin. Jésus est le prince de la vie. Voyez-vous, pourquoi on n'a pas de relation avec Dieu? C'est que le péché bâtit un mur entre nous et Dieu. Isaïe 59 nous dit ceci. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché met un mur entre nous et Dieu, la mort. Et ce matin, comme je sais que je me répète, mais si tu n'es pas en Christ, tu as exactement la même situation. Tu ne peux pas avoir de relation avec Dieu. Est-ce qu'un mort peut avoir une relation avec un vivant? Non, c'est impossible. Et c'est la même chose avec nous. Et j'ai dit tantôt, c'est un état dangereux, parce que Apocalypse 20 nous dit ceci. « Je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui du livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre. » Un jour, chacun de nous, on va avoir à rendre compte au Seigneur. Et si ton nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, tu vas avoir un problème. Et la seule manière d'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie, c'est par la Sainte Christ. La mort spirituelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus est mort pour racheter les pécheurs. Isaïe 25 nous dit ceci. Il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Et il se fait disparaître de toute la terre le propre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Osée 13, verset 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Et Christ est venu mourir pour qu'on puisse vivre. Si vous êtes vivant ce matin, c'est parce que Christ est mort. Donc, Christ arrive dans une procession funéraire devant la mort. Mais le cas est encore plus désespéré que ça. Parce que Luc nous dit que la pauvre madame, son fils qui est mort, c'est son fils unique. Son poteau de vieillesse. Il faut comprendre que dans ce temps-là, il n'y avait pas de système d'aide sociale. Donc, c'est les enfants qui prennent soin des parents. Mais si ton fils unique est mort, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas bien. En plus, plus lignée, ton fils est mort. Donc, tu n'auras jamais de petits-enfants. Donc, tes lignées vont mourir. Et ça, en Israël, c'était une honte. Aucun support financier, aucun espoir pour le futur. Et regardez la fin du verset 12. En plus, elle est veuve. Va pas bien son affaire, la madame. C'est vraiment un cas désespéré. Et être veuve dans le temps, c'était les plus démunis de la société. Le contexte historique du temps nous dit ceci. L'espérance de vie d'une veuve était très mince. Sans la protection de son mari, et dans ce cas, ni de son fils, plusieurs mouraient de faim ou battus brutalement. Parce qu'il n'y avait personne pour les défendre. En plus, c'est une femme âgée. Donc, incapable de travailler probablement. Et en plus, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, pour la société du temps, elle est devenue un poids qu'il faut traîner. Et c'est pour ça que le Seigneur a mis, quand on lit l'Ancien Testament, combien est-ce qu'il y a de lois pour prendre soin de la veuve et de l'orphelin? Deutéronome 10, un exemple. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fort et terrible, qui ne fait acceptation de personne et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Et imaginez ici, là, Dieu lui-même met ses souliers le matin et il marche 40 km à pied. C'est dur, là. Il marche pendant 12 heures pour aller rencontrer une pauvre veuve que son fils vient de mourir. Dans le message, dans le miracle juste avant, Jésus est allé voir un centenier romain. Donc, c'est un homme riche. Les gens avaient dit, « Ben, il est tellement riche qu'il a même fait bâtir notre synagogue. » C'est un homme qui était reconnu, aimé. Et là, Jésus va dans une ville que personne ne connaît, voir une vieille madame. Spécial, hein? Elle n'a pas été appelée. Elle n'a pas appelé Jésus. Jésus se rend voir une démunie, 40 km à pied, pour aller l'aider. Parce qu'on a un Dieu de compassion. Hein? Ça ne peut pas aller plus mal pour elle. Son fils est mort, son fils unique, et elle est veuve. Puis peut-être ce matin, ça va mal dans ta vie. Peut-être que tu vis des temps difficiles, comme cette femme-là. Mais le Seigneur n'est pas aveugle. Il nous entend. Il nous voit. Je dirais, il n'a pas peur de crier comme le psalmiste a crié dans le psaume 86. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Dieu entend nos cris. Est-ce que vous croyez ça? Oui? Dieu entend nos cris. La preuve, Dieu s'est déplacé. Lui-même. Il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre. Mais Jésus est allé lui-même. Et la preuve qu'on n'a pas un Dieu dur, un Dieu compatissant, regardez le verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Ému de compassion. Jésus était ému dans ses tripes. La pitié pour cette pauvre madame qui lui a absolument rien demandé. Et là, Jésus fait quelque chose de bien bizarre. Il dit à la madame, « Pleure pas. » Avez-vous déjà été dans un salon funéraire, rentrer et dire à la personne qui c'est son père ou sa mère ou ses enfants sont morts, tu dis, pleure pas. Qu'est-ce qui va arriver probablement? Un coup de poing dans le front, mais non, on va probablement te sacrer droit. Pourquoi Jésus peut aller à côté d'un cercueil et dire à une femme, ne pleure pas? Deux raisons. Jésus, c'est le prince de la vie. Premièrement. La deuxième raison, c'est le Dieu de toute consolation. Et dans le temps, il faut comprendre que pleurer, c'est important. Quand Moïse est mort, Deutéronome nous dit que les gens ont pleuré 30 jours la mort de Moïse. Imaginez. Et pleurer dans le temps, c'était tellement important qu'on engageait des pleureuses. C'est vrai. On engageait des pleureuses pour venir aux funérailles et pleurer, se lamenter sur la mort. Et là, Jésus arrive, puis il dit à madame, « Ne pleure pas. » OK. Psaume 30 nous dit ceci. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as oint de joie. Jérémie 31. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Et ce que Christ a fait ce matin-là, ou ce soir-là, Christ est le seul qui peut changer une funéraille en un party. Personne d'autre peut faire ça, sauf le Seigneur Jésus. Regardez la fin du verset 13, ou le début du verset 13. Luc dit, « Le Seigneur l'ayant vu. » Et le mot « Seigneur » ici, en grec, c'est le mot « kurios », le Tout-Puissant, celui qui est au contrôle de tout. Et dans l'Évangile de Luc, c'est la première fois que Luc utilise le mot « le Seigneur », celui qui est au-dessus de tout. Pourquoi? À cause du prochain verset. Verset 14. « Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Premièrement, Christ fait ce qui est exactement contre la culture, encore une fois. La loi nous disait quoi? Tu ne touches pas quelqu'un qui est lépreux, qui a une gonorrhée ou un mort. Si oui, tu es impur pendant 7 jours. Après, il faut que tu ailles au temple pour faire le rite de purification. Mais pas Jésus. Jésus touche la mort. Et Jésus ne devient pas impur. C'est le contraire. Quand Jésus te touche, il ne devient pas impur. C'est toi qui deviens impur. Spécial, hein? Jésus, avec son autorité, s'approche du mort et il touche le mort, touche le cercueil. Il fait exactement ce que la loi lui dit de ne pas faire. Ici, le mot « le toucha », en grec, ça veut dire un toucher qui modifie, qui apporte un changement, qui a une influence. Et quand Christ nous touche, ça fait une différence. Il faut que ça fasse une différence. Sinon, ce n'est pas Christ qui t'a touché. Quand Christ nous touche, ça fait une différence. faut que ça fasse une différence. Donc, le mort revient à la vie. Là, au verset 14, Luc nous dit, « Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. » Moi, je peux m'imaginer, là, je suis un des porteurs, je porte le cercueil. Là, Jésus dit, « OK, arrêtez. » Moi, je regarde mon chum, j'ai dit,
« Si le monde bouge, chaque-moi va aller. »
Tu peux l'imaginer, hein? Pour vous autres? Vous êtes au cimetière? La personne se lève dans le cercueil. C'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. Mais Jésus fait juste dire, lève-toi. L'autorité de Christ. Et quand on regarde le message, le miracle du paralytique, Jésus a fait exactement la même chose avec le paralytique. Il lui a dit, « Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. » Il parlait à un homme malade. Mais là, il dit à un mort, « Lève-toi. » Qu'est-ce que le mort fait? Il se lève. Il s'assit dans le cercueil. Wow! Christ n'est pas juste au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de la mort. Et Jésus a dit dans Matthieu 28, « Toute autorité m'a été donnée sur la terre. » Il a même l'autorité sur la mort. Imaginez. Et Christ peut faire la même chose pour toi ce matin si tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Christ a l'autorité sur la mort. Encore aujourd'hui. Regardez la réaction de la foule au verset 16. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Un grand prophète est parmi nous. Qui, selon vous, est un des plus grands prophètes dans l'Ancien Testament? Ou je dirais Élie. Élie. Et Élie en a fait, lui, un miracle de ressusciter quelqu'un. Et on va regarder qu'est-ce qu'Élie a dû faire pour ressusciter un mort. Un roi 17. Peut-être vous vous rappelez la veuve de Sarepta? Jésus, pas Jésus, mais Élie, va et il dit « Donne-moi à manger. » Et la veuve de Sarepta lui fait des gâteaux et finalement est capable de nourrir sa famille parce qu'elle ne pousse vite jamais. Et un jour, la veuve de Sarepta, son fils meurt. Et elle appelle Élie. Et regardez ce qu'Élie a dû faire pour ressusciter le jeune homme. Ça nous dit ceci, dans 1 Roi 17. « Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie lui fut si violente qu'il ne restait pas en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Et Élie lui dit, « Donne-moi ton fils. » Et regardez ce qu'Élie a dû faire pour ressusciter le jeune homme. Il le prit du sein de sa mère, il le monta dans la chambre haute où il demeurait, il le coucha sur le lit, puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçue comme une autre? » Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-devant de lui, et il fut rendu à la vie. Et Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Voici, ton fils est vivant. » Voici ce qu'Élie a dû faire pour ressusciter un enfant. Qu'est-ce que Jésus a dû faire? Lève-toi. L'histoire est un peu moins longue, hein? Quand les gens ont dit un grand prophète est parmi nous, ils se trompaient. C'est pas un grand prophète. C'est à Dieu lui-même. C'est Dieu qui a dit aux morts, lève-toi. Le psaume 33, 8 et 9 nous dit ceci. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est pas un grand prophète qui est parmi nous. C'est Dieu lui-même. Et c'est quoi la réponse du peuple qui devrait être notre réponse? Crainte et louange. Est-ce qu'on craint Dieu pour qui il est? Et est-ce qu'on se réjouit de la grâce de Dieu? C'est ce qu'ils ont fait. Et eux, ils pensaient qu'il y avait un prophète devant eux. Nous, c'est Christ qui est parmi nous. Lui rendir hommage. Un grand prophète est parmi nous. Il faut savoir une chose. Ce Jésus qui est allé à la ville de Nain est le même aujourd'hui. Nous, on vieillit, on perd nos pouvoirs, on perd notre force, mais pas le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus a la même autorité, la même puissance qu'il y avait il y a 2000 ans quand il a fait ce miracle-là à Nain. Est-ce que c'est encourageant pour vous autres? Bon, il n'y a pas grand monde d'encourager ici ce matin. Est-ce que c'est encourageant pour vous autres de savoir? J'espère. Luc l'a écrit pour nous encourager. On a un Dieu qui a toute autorité. Et Jésus n'a pas perdu sa force. N'a pas perdu son autorité. Et on peut aller vers Jésus et demander au nom de Jésus. Et Dieu nous entend. Psaume 102, 27. Tu restes le même et tes années ne finiront point. Dieu ne change pas. Psaume 33, 11 et 12. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. C'est qui ça? C'est moi? C'est qui? C'est nous. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Amen. Moi, je vous dirais, en tout cas, pour moi, c'est encourageant de savoir que je peux m'approcher d'un Dieu qui est rempli de compassion, qui n'a pas les oreilles bouchées et qui a toute autorité, même sur la mort. Même sur la mort. Mais il y a une autre chose aussi que le texte nous dit. Ça nous donne un avant-goût de ce que les enfants de Dieu vont vivre un jour. Parce que si tu es en Christ, toi aussi, tu vas ressusciter un jour. Ce que le jeune homme a vécu, on va le vivre aussi. Mais tout en même temps. Ça va être spécial, hein? Quand Jésus va nous dire, « Daniel, lève-toi! » Paul dit, « En un instant, en un clin d'œil, les morts en Christ vont se lever. » Tout en même temps. 1 Corinthiens 15. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Cette journée-là, Jésus a détruit la mort d'un jeune homme. Un jour, la mort va complètement disparaître. Et Charles Spurgeon a dit ceci, concernant ce texte-là. Il dit, ce miracle est un avant-goût premier à petite échelle de ce qui se produira bientôt lorsque ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de Dieu et vivront. Alors leur dernier ennemi sera vaincu. Laissez la mort venir au contact de celui qui est notre vie et elle devra lâcher sa proie. La mort retient les morts. Mais un jour, la mort devra lâcher sa proie. Quel que soit le butin capturé, bientôt notre Seigneur reviendra dans sa gloire. Alors, dans les portes de la Nouvelle Jérusalem, nous verrons se reproduire à l'infini le miracle opéré devant les portes de Nain. On va rentrer en chantant et en dansant dans la Nouvelle Jérusalem. Et j'espère ce matin que quand Jésus va rentrer, vous allez tous être là pour danser avec moi. Et vous ne resterez pas ici. Pour connaître la deuxième mort. Parce que la deuxième mort, c'est jugement. Je ne sais pas si je vais m'en rappeler, mais quelqu'un a dit, celui qui naît une fois va mourir deux fois. Celui qui naît deux fois va mourir une fois. Si tu nais et tu nais de nouveau, tu vas mourir juste une fois. Tu vas connaître ta mort physique. Mais si tu nais juste une fois et tu n'es pas de nouveau, tu vas connaître la mort naturelle et la mort spirituelle. J'espère ce matin que vous êtes tous nés deux fois. Sinon, je vous encourage à crier au Seigneur Jésus. Christ est venu mourir pour des pécheurs. Le pire de la gang, il se tient en avant de vous autres. Et je vous encourage. Et si vous ne savez pas quoi faire, allez voir Denis, allez voir un des anciens. Dites-leur, moi je veux connaître ce Jésus-là. Je vous encourage à le faire. Partez pas sans rencontrer le prince de la vie. Jésus est venu mourir pour qu'on vive. Pourquoi repartir comme des morts ce matin? Quand Christ est venu mourir sur la croix pour nous donner la vie. Je vais terminer par la prière. Père, quand même, je vais te dire merci pour, encore une fois, ce miracle. Père, t'envoyer dans ton fils marcher une journée de temps au complet. 12 heures au soleil, dans la poussière. Aller rencontrer une pauvre veuve qui avait perdu ce qui avait de plus cher, son fils unique. Elle ne t'a même pas demandé de venir, tu es allé toi-même. Et en rentrant dans la ville, te redonner à cette mère ce qu'elle avait de plus cher, son fils. Et te redonner à ce jeune homme la vie. Merci, Père, d'avoir fait la même chose avec moi, avec plusieurs de nous autres ce matin. On était à mort dans nos péchés. Et tu nous as redonné la vie. Que l'appel du berger ce matin puisse être entendu. Jésus dit, « Chacune de mes brebis que j'appelle va entendre ma voix. Attire à toi, Seigneur. » Merci pour ta mort, parce que cette mort me donne la vie. Merci d'avoir permis de naître de nouveau pour ne pas mourir une deuxième fois. Encore une fois, Seigneur, à toi seul la gloire. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à moi. À toi seul la gloire, par le nom de Jésus. Amen.